Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Victor Hull.
Baptiste Antoine.
Le livre est signé Audrey Nageur, il est paru aux éditions du Masque, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Audrey Nageur.
Bonjour.
Cet homme ordinaire a un prénom ordinaire, il s'appelle Hervé. Et quand débute le roman, Hervé entame une nouvelle période de sa vie. Il a 65 ans, il vient de prendre sa retraite, alors ça arrive là aussi à beaucoup de gens. Et comme beaucoup de gens, pas tous mais certains, ce moment de sa vie est un peu vertigineux. Il a un peu l'impression de sauter dans le vide.
Oui, absolument. Il s'y attendait pas, je pense. Et il a toujours travaillé, il a toujours été utile à sa manière. Et d'un coup, il se retrouve seul et obligé de tourner en rond et d'affronter quelques démons.
Oui, il se sent déréglé, marginal, inutile. Trois mots qui sont absolument terribles à vivre quand même. Moi, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, mais mon Dieu, j'espère que la retraite n'arrivera jamais.
J'espère pour vous.
Mais déréglé, c'est intéressant, déréglé, parce que ça veut dire que tous les petits rituels de la vie quotidienne disparaissent comme ça du jour au lendemain ?
Oui, je crois qu'à un moment, je dis, il ne reçoit plus d'emails. Avant, on le consultait, on lui écrivait, on lui demandait son avis. Il fallait qu'il se rende au travail. Il avait des horaires, maintenant, il n'en a plus. Et c'est vrai qu'il tourne en rond, il est un peu désœuvré, il a plus grand-chose à faire à part sortir son chien, se nourrir, prendre sa douche et attendre que sa femme rentre puisqu'elle continue de travailler.
Oui, on sent tout de suite qu'Hervé Audrey Nageur ne s'aime pas beaucoup. En fait, c'est un personnage qui n'a pas vraiment confiance en lui.
Non, exactement. Je crois que c'est son plus gros problème, c'est qu'il manque de confiance depuis toujours. Mais en effet, le fait de travailler, d'avoir une vie comme ça, un peu sur des rails, lui permettait d'éviter de trop fouiller ces zones sombres.
Oui, il vendait des pneus, en l'occurrence. C'était ça son métier. Donc, saut dans le vide, on le disait. Et puis, quand même, deux référents dans la vie pour Hervé. Le premier référent, c'est sa femme. Sa femme s'appelle Elisabeth. Alors, il l'aime énormément, il l'aime vraiment, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, donc ils commencent à bien se connaître, et on se rend compte au fil du livre qu'il a vraiment besoin d'elle, elle lui est vraiment indispensable, c'est un peu son oxygène, il vit un peu à travers elle.
Oui, complètement. C'est ce que j'aimais aussi dans l'idée du titre ordinaire, c'était pas que la haine ordinaire ou la violence ordinaire et banale, c'était aussi l'amour ordinaire et je veux pas en faire un problème, bien au contraire, je trouvais ça assez beau d'avoir un amour routinier, en effet 40 ans de vie commune avec leurs habitudes. Rien d'incroyable, mais finalement...
Il n'y a pas de crise, parce qu'on dit toujours, au bout d'un certain temps, ben voilà la routine, il y a l'ennui, etc. C'est pas du tout le cas.
Non, ils ont surmonté des choses ensemble, ce qui les a renforcés, et c'est vrai qu'ils sont devenus indispensables l'un à l'autre. Et Elisabeth est sa lumière, son oxygène, comme vous dites.
Oui, et presque, j'allais dire, ça rambarde son garde-fou, quoi. À un certain moment, vous écrivez, elle sent que sans son soutien, il s'effondrerait comme un château de cartes. Elle le sent faible, vidé comme un ballon dégonflé qui a pris son envol et ne peut que redescendre, que crever. Autrement dit, Elisabeth se sent quand même indispensable à son mari. Elle sait, quoi, d'une certaine façon, qu'il est un peu dépendant d'elle.
Oui, il l'est et elle le comprend parce qu'il ne communique pas forcément beaucoup, mais par contre, elle sait qu'elle est indispensable et c'est vrai que je crois qu'il tient grâce à elle.
Mais il y a une inégalité très claire dans le couple au moment où le roman démarre, ne serait-ce que parce qu'elle travaille et lui plus.
Oui, parce que peut-être elle communique différemment de lui.
Elle est plus insérée, en fait.
Oui, elle est plus insérée. Elle sait pas... Et puis elle s'aime plus, en fait, je crois.
Oui, ce qui change tout. C'est important de savoir s'aimer, finalement, pour pouvoir continuer à se battre pour exister.
J'ai l'impression.
Alors, l'autre référent d'Hervé, celui qui lui tient désormais compagnie toute la journée quand sa femme est au travail, c'est Billy. Vous pouvez nous présenter Billy, Audrey Nageur ?
Billy, donc, est le chien, l'animal de compagnie d'Hervé, son meilleur ami.
Un
bichon maltais blanc. Très attachant, je crois. Enfin, vraiment, moi, je me suis beaucoup attachée à lui. Et c'est, voilà, parce qu'en fait, ce chien est un chien, donc il ne se pose pas mille questions, il est là pour manger, dormir, aller faire sa petite promenade. Et je crois que c'est assez agréable pour Hervé d'avoir un compagnon comme ça, qui le ramène un petit peu sur terre.
Ouais, alors il aime effectivement promener son chien, il aime les longues balades avec lui le long de la Seine, puisque l'histoire se passe en région parisienne, et on se rend compte, et on va y revenir un peu plus tard, car c'est vraiment un moment clé du roman, combien il aime son chien, justement. Alors jusque-là, rien que de très banal, de très ordinaire, pour reprendre le titre de votre livre, Audrey Nageur, sauf qu'il y a quand même quelques éléments qui, sans être si rares que ça, donnent une dimension quand même un peu singulière à ce couple. Le premier élément, c'est qu'Hervé n'a pas connu son père, qui est parti avant sa naissance. Et le second, le lecteur l'apprend quand arrive le 14 juillet, le jour de la fête nationale en France. Nous sommes à la page 64 de votre roman.
Le 14 juillet, c'est une cicatrice qui ne se refermera jamais. Des millions de points de suture n'y changeront rien. Le 14 juillet, ce sera toujours un réveil malheureux, une journée de merde. Quelques rares textos bien pensants, de la mélancolie et leur gueule d'enterrement. Le 14 juillet, c'est la liberté d'un peuple et leur guillotine à eux. Ils ne sortent pas ce jour-là, jamais, sauf pour aller à l'église. Ce n'est pas qu'ils soient croyants, ils ne l'étaient déjà pas vraiment. Et depuis la mort de leur garçon, ils ont dû renoncer à l'espoir d'un Dieu tout-puissant qui leur aura fait vivre l'enfer. Il allume un cierge, rituel inutile sans prière possible. Des prières, il y en a eu, elles n'ont pas été exaucées. Il regarde sa femme, à genoux, pense qu'il suffirait d'un seul faux pas pour tout brûler, créer un peu de malheur autour, histoire de partager. Brûler l'église, brûler les icônes, les espoirs, les commerces à côté, brûler la ville, brûler Paris, brûler le monde entier, les cimetières en premier. Il y pense, et il oublie. Il prie, parle à son fils en secret, se demande s'il les voit, s'il les trouve changés. À quoi il ressemble, lui, maintenant ? Paul était un petit garçon comme tous les autres, extraordinaire. Il avait de jolis yeux noisettes, des cheveux bruns, un corps légèrement enrobé, une fascination pour les insectes et les pompiers. Il adorait regarder l'espace, voir les avions voler dans le ciel. Dès qu'il en voyait un par la fenêtre, ou lorsqu'il se promenait au parc, il criait « Vaisseau !» Maintenant, chaque fois qu'Hervé voit un avion dans le ciel, il a le cœur brisé. Dommage qu'Orly ait modifié son couloir aérien. Les avions survolent la ville en long et en large. À cause de ce foutu couloir aérien, de tous ces gens qui voyagent, des touristes, des amours à distance, Hervé voudrait chialer tous les jours. Et la voix éternelle de son petit garçon résonne dans sa mémoire. « Regarde, papa, encore un vaisseau !» Paul avait 3 ans quand sa maladie s'est déclarée. Ils n'ont rien compris.
Alors, il est absolument poignant, ce passage du livre Audrey Najjar. Moi, j'ai trouvé d'ailleurs qu'il tranche singulièrement avec les chapitres qui précèdent et avec ceux qui suivent. La mort d'un enfant, on dit toujours qu'il n'y a sans doute rien de plus douloureux. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de faire porter cet énorme fardeau-là à Hervé et Elisabeth?
C'est vrai, c'est une phrase d'ailleurs que j'ai entendue quand j'étais petite. Je me souviens que mes parents avaient dit ça, parce qu'un oncle avait perdu son fils. Et c'était ça, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Je pense qu'elle est restée quelque part, cette phrase, et je n'ai pas choisi de parler de ça et d'imposer ça à Hervé. Mais c'est un moment sorti pendant l'écriture, c'est ce qui lui était arrivé, je crois. Et peut-être aussi une manière d'excuser mon personnage... De ce qu'il devait vivre, parce qu'il avait vécu un drame tel que voilà, il était pardonné de toute
façon. Parce que là, pour le coup, on sort de l'ordinaire. Là,
oui.
Audrey Najjar, ça n'arrive pas à tout le monde et bien heureusement.
Oui.
Ça donne tout de suite un relief particulier à ce personnage qui, par ailleurs, est si ordinaire.
En tout cas, voilà, je pense qu'on le comprend tout de suite. Qu'on s'identifie à lui, on a tous peur de vivre quelque chose dans cet acabit. Et puis ça a renforcé aussi son couple, c'est pas forcément le cas, mais de tout le monde, puisqu'évidemment ça divise et ça éloigne. Mais en tout cas, j'aimais l'idée que ça n'a pas éloigné Hervé d'Elisabeth et réciproquement, au contraire, qu'ils sont devenus un peu plus solides tous les deux.
Alors vous êtes une primo-romancière, comme on dit, c'est votre premier roman, mais des personnages, vous en avez quand même créé énormément pour l'Internet, pour la télévision, pour le cinéma, à travers des courts-métrages, bientôt un long-métrage, on va sans doute en dire un petit mot dans un instant, Audrey Najjar. Mais alors justement, quand on définit un personnage, est-ce que c'est aussi par ses fêlures qu'il existe, tout simplement.
Oui, je crois de plus en plus d'ailleurs que c'est vraiment important et qu'on aime des personnages parce qu'on arrive à s'identifier à eux et qu'on a besoin que ce soit des personnages pas, je dirais, à l'américaine où ils sont juste des héros parfaits.
Les super-héros ont moins la cote qu'avant.
Oui.
On a besoin d'humanité, on a besoin de faiblesse, on a besoin d'une part de souffrance et de douleur.
Oui, alors après, on aime aussi la résilience et des personnages qui arrivent à s'en sortir ou à montrer de la force. Mais voilà, là, en effet, c'est l'histoire d'un anti-héros, ça c'est sûr, d'un personnage un peu loser. Et j'aimais bien cette idée-là. J'aime toujours cette idée-là.
Like if I would have known he was so cool, and it's like, yo, if I would have watched interviews sooner, bro, we were so alike. It's unfortunate because it's like, yo, when people die, that's when you like, you know, because your remorse kind of makes you check them out.
Rolling Down, Lil Peep dans VMDN sur RFI, avec Audrey Najjar qui publie Ordinaire, son premier roman aux éditions Le Masque et la Mort, plane sur l'ensemble du récit. Audrey Najjar, le livre commence d'ailleurs par un prologue qui raconte la découverte d'un corps dans une mare de sang dans le jardin de l'immeuble dans lequel résident Hervé et Elisabeth. Alors ça se passe au petit matin, c'est l'homme de ménage de la copropriété qui découvre le cadavre. En fait, il se rend compte que ses baskets prennent subitement une teinte rouge sang. C'est un moment assez saisissant. Alors, démarrer un roman, c'est toujours très compliqué, a fortiori si c'est un premier roman. Comment avez-vous décidé justement du début du livre et pourquoi avoir choisi ce prologue qui rompt avec la rythmique et la chronologie du livre qui suit ?
Je crois que je l'ai fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas ce prologue. Et je crois que je l'ai fait après, je ne sais plus exactement à quel stade. Mais que je trouvais ça important d'annoncer la couleur.
Et d'annoncer la couleur rouge sang, en l'occurrence.
Rouge sang, exactement. Et de savoir. Parce que c'est vrai que c'est une histoire que je voulais assez simple et qui s'installe doucement, qui monte crescendo. Et donc, ça, au moins, on sait tout de suite où on va. Et on attend de voir comment ça dérape.
Voilà, et l'incipit du livre est le suivant. Il n'y a rien de plus banal que la mort. C'est vrai ça, Audrey Najjar ?
Je pense, finalement. Des gens meurent tous les jours, on a du mal à s'y faire. Moi la première, mais par contre, on devrait dire qu'en effet, c'est banal.
Oui, c'est banal, et pourtant, c'est ce qui marque la vie des gens, quand même, pour le coup.
Tout à fait.
C'est ce qui la termine, souvent. Oui. Mais on ne se remet jamais complètement de la mort de quelqu'un qu'on aime, hein, d'ailleurs.
Complètement.
Alors, vous l'écrivez, d'ailleurs, depuis la mort de Paul, donc leur fils, Elisabeth et Hervé ont une vie en apnée. Alors ça, c'est un vrai mystère, quand même. Comment est-ce que vous expliquez que le banal, en l'occurrence la mort, que le banal puisse être aussi marquant ?
Mais parce que pour ceux qui restent, pour les vivants, qui doivent essayer de comprendre, c'est le problème de l'être humain, c'est qu'il se pose beaucoup de questions et puis là, on ne comprend pas. Donc on tombe dans quelque chose d'inconnu et qu'on n'arrive pas à s'expliquer, je crois. J'ai essayé de trouver la réponse, moi je ne l'ai pas trouvée encore, mais c'est ça qui est difficile.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez Lucien Gerfagnon, qui est un philosophe décédé il y a quelques années et qui a écrit une thèse sur la banalité. Et ça dure des pages et des pages, c'est absolument passionnant.
Ah, il faut que je lise ça.
Voilà, le banal, la banalité, ça peut être follement romanesque.
Oui, mais je suis assez d'accord, voilà, j'aurais dû le dire.
Je vous le conseille.
J'ai potassé.
Voilà, autre phrase très forte dans votre roman sur la mort, cette fois, on est à la page 25, Audrey Najjar. Il y a quelque chose de sadique dans l'annonce mortuaire, comme une course où l'on veut être le premier. C'est vrai qu'annoncer la mort de quelqu'un, même dans un cercle assez restreint, c'est comme annoncer un scoop pour un journaliste d'une certaine façon. Et c'est ce qui se passe dans l'immeuble d'Hervé quand on apprend la mort d'une résidente assez ancienne qui s'appelle Marie-Claire. Alors elle est morte chez elle, seule, dans son salon. Hervé l'aimait bien, il se connaissait depuis pas mal de temps. Et c'est un décès qui va toucher les habitants de cet immeuble. Un immeuble qui se trouve à Alfortville. Alors Alfortville, c'est en région parisienne, dans la banlieue est de Paris. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de situer votre récit dans une ville comme celle-ci ?
Il y a des choses que je ne m'explique pas en écrivant, c'est juste que ça s'impose à moi. Je travaille avec un moodboard d'abord et donc avec des références autant en termes
alors,
de...
Alors attendez, un moodboard, oh là, il faut expliquer.
J'y vais. C'est mon côté anglo-saxon.
Allez-y.
Non, avec des références visuelles, donc je fais un petit fichier avec des photos autant sur le personnage que sur le décor, les costumes, et j'aime bien juste voir un peu, mettre d'accord mes deux personnalités sur tout ça. Et donc, sur la ville, j'avais envie de quelque chose d'un peu graphique, en banlieue. Et puis Alfortville est ressorti. Quelque chose le long de la Seine aussi. Donc, j'ai un peu cherché comme ça. Et puis, j'avais hésité entre plusieurs villes. Et Alfortville s'est imposé.
Voilà. Donc, on est dans un quartier d'immeubles. Bâtiment B, deuxième étage. Hein, c'est là que résident Hervé et son épouse, près donc de la ligne du RERD. C'est une petite ville, c'est une petite cité, on a un peu l'impression. En fait, tout le monde se connaît sans vraiment se connaître, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on croise des figures familiers tous les jours. On a quelque chose finalement d'assez statique, quoi. Là aussi, on est dans une forme d'ordinaire.
Oui, c'est, j'imagine pas quelque chose de gigantesque, mais en effet, c'est des immeubles qui cohabitent les uns à côté des autres, et un peu comme tout le monde, je crois, on est entouré de voisins qui vivent leur vie sans qu'on sache vraiment ce qu'ils font une fois chez eux, et pareil pour nous. Donc, j'aime cette idée que Hervé, il est là depuis très longtemps avec Elisabeth, et ils connaissent quand même tout le monde, les nouveaux, les anciens. Ils voient que ça bouge. Là, il y a cette Marie-Claire qui meurt, et en effet, c'est tout un pan de l'histoire, tout un bastion qui s'écroule petit à petit. C'est ce qui lui fait peur aussi. Et voilà. Mais finalement, on a beau être vraiment très près les uns des autres, on ne connaît pas tout de l'autre, bien au contraire.
Je peux vous demander si vous habitez dans une villa ou dans un immeuble au
Je vis dans un immeuble.
C'est romanesque, un immeuble ?
Oui, je trouve. Là, j'ai déménagé, donc suite à ce voisin. Mais de là où je suis, justement, j'ai vraiment un vis-à-vis comme dans Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Bon, voilà, ils sont tombés sur une voisine un peu curieuse, donc j'adore observer l'intimité des gens.
Bon, je ne sais pas si vous êtes locataire ou propriétaire. En tout cas, avant de vous lire, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point une réunion de conseil syndical, ça peut être romanesque, justement. On a presque l'impression, quand vous racontez, ça se passe vraiment dans un chapitre du livre de Rien à faire. On a vraiment l'impression que vous êtes une sorte de psychologue et de sociologue, avec une bonne dose, évidemment, de romanesque là-dedans. Mais c'est un bon moyen, c'est un bon endroit d'étudier la personnalité humaine, une réunion de copropriété.
Ah oui, je trouve, c'est vraiment un endroit où les gens se révèlent. C'est ce que j'ai ressenti moi pour l'avoir vécu. Il y a beaucoup d'alliances, on se fait beaucoup de sourires, etc. dans la cour, parce que tout le monde cherche à obtenir, à avoir des avantages. Et le jour du conseil syndical, enfin de l'assemblée générale, ouais. Là par contre tout le monde se lâche et c'est vraiment chacun pour soi, quoi. Et ouais.
C'est pire que les réunions de famille, que les dîners de famille. C'est ce que vous écrivez, donc on peut vraiment en tirer effectivement quelques histoires. Et quand débute le roman, le président du conseil syndical de cet immeuble, qui se trouve donc à Alfortville, c'est Pascal. Alors Pascal, il s'en sort plutôt bien, hein, mais il veut passer la main parce qu'il a d'autres préoccupations, on va dire. Et à qui il pense pour lui succéder ? Eh bien, il pense à Hervé, Pardy. Il lui en parle. Pourquoi il pense à Hervé, d'ailleurs ?
Il pense à Hervé parce que Hervé est là depuis très longtemps, qu'ils sont amis. En tout cas, ils se connaissent très bien depuis très longtemps. Et il se dit que c'est dans l'ordre des choses de proposer à un peu le père de la copropriété, son successeur.
Oui, et Hervé se prend à rêver, parce qu'en fait, ça a l'air banal comme ça, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens rêvent de devenir président d'un conseil syndical. Bah, Hervé, pour lui, c'est une sorte de révélation, quoi. On a presque l'impression qu'il le ressent comme un honneur, quoi. En tout cas comme une marque de confiance, ça le touche énormément.
Oui, exactement, c'est aussi parce que justement il ne fait plus rien, vraiment, que là il se dit je vais avoir un rôle, et puis je crois qu'il y a quelque chose d'un peu paternel, alors je n'ai pas du tout voulu lier tout ça, bien au contraire, mais là en vous écoutant, je me dis qu'il y a, ça, une espèce de prendre une place où il pourrait vraiment... materner tous les copropriétaires, les accompagner, les écouter et voilà, se sentir aimé finalement dans ce rôle-là.
Donc il n'est pas encore élu, mais il se sent déjà élu. C'est le mot que vous
utilisez. En tout cas, il aimerait vraiment beaucoup.
Oui, et Hervé est donc dans cet état d'esprit. Il espère devenir ce président du conseil syndical, ce représentant de la copropriété, ce nouveau papa, comme vous le disiez à l'instant. Il est dans cet état d'esprit-là quand les Cobons, une nouvelle famille, emménagent dans l'immeuble. Nous sommes à la page 56.
La première fois qu'il a aperçu les Cobons, c'était de sa fenêtre. Il a écarté le rideau pour mieux les voir. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa cour ? Qui allait-il voir ? D'abord, il a pensé que c'était sûrement des amis de la femme du rez-de-chaussée. Ils avaient approximativement le même âge. Et puis, il a réalisé que c'était pas vraiment le même milieu social. Elle n'avait pas un sou, alors que l'homme, grand, charismatique, noir, était habillé très élégamment en costume gris chiné. À côté de lui, sa femme, les cheveux longs, tressés, portait une robe bordeaux légèrement évasée et des chaussures à talons. Leurs trois enfants les suivaient sans courir. Les deux garçons portaient des chemises et leur petite sœur un t-shirt corail avec une jupe, des soquettes et des chaussures à boucles. Un des fils tenait une laisse bleue avec un chien au bout. Un Jack Russell blanc avec des taches sombres sur le haut du dos et autour de l'œil droit. Il les a perdus un instant, s'est remis dans son fauteuil et puis il a entendu l'ascenseur grincer. Elisabeth n'était pas là, elle était partie faire les courses. Billy s'est mis à grogner en entendant les pas, les voix et la clé dans la serrure à l'étage supérieur. Hervé a compris que la famille ne s'était pas trompée d'adresse, ils étaient chez eux.
Et c'est comme ça, Audrey Nasher, à chaque fois qu'un nouveau personnage s'invite dans vos pages et arrive dans le roman, vous commencez par quelques détails physiques, par une description sommaire qui permet tout de suite au lecteur de visualiser la scène. Vous insistez sur un petit détail physique, une petite imperfection. Vous parlez aussi des vêtements. Il y a beaucoup de couleurs, par exemple, aussi dans l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est important comme ça que tout de suite le personnage rentre dans l'histoire à travers son apparence.
Pour moi, je crois que j'ai besoin, en effet, de bien l'incarner. Je ne veux pas non plus trop en dire parce que c'est important.
C'est très sommaire, mais c'est très précis en même temps.
Mais voilà, donner les contours en tout cas.
Oui, c'est aussi important le physique que la psychologie d'un personnage.
La psychologie est plus importante, je crois. Mais en tout cas, je donne quand même une indication des personnages comme je les entends. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui aiment bien en faire le moins possible et laisser vraiment le lecteur totalement...
Il y a les deux tendances. Il y a ceux qui en font beaucoup et il y a ceux qui n'insistent quasiment jamais sur l'apparence physique et qui préfèrent laisser l'imaginaire du lecteur faire le reste.
Oui, qui font confiance au lecteur et c'est mon cas, mais c'est vrai que j'aime bien moi quand même donner un petit peu de détails.
Oui, parce que là, on se dit quand même, quand on vous lit, en plus vous avez des phrases qui sont souvent extrêmement courtes, on se dit quand on vous lit qu'avant de devenir romancière, avant d'être une femme de mots, vous êtes aussi, on le sait, une femme d'image. Vous êtes scénariste, réalisatrice, je le disais tout à l'heure, avec votre binôme Frédéric Perrault, qu'on avait eu la chance de recevoir dans cette émission. Vous formez le duo Najar et Perrault. Vous réalisez donc des clips, des séries, des courts-métrages. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur votre site najar-perrault.com. Vous préparez un long métrage aussi, je crois.
Oui, on prépare un long métrage.
Vous pouvez nous en dire un petit mot ?
Avec plaisir, c'est un style assez différent, c'est une comédie, on est en casting et ce sera produit par Eric Gelman chez Géricault sur une amitié entre deux femmes, voilà donc un projet très réjouissant, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus.
Voilà, et là on a vraiment l'impression, Audrey Nasher, que quand on lit votre roman, il y a cette écriture un peu cinéma, avec justement ce côté très visuel. On plante le décor au début du chapitre, on décrit quelques points importants pour poser chacun des personnages. Vous passez par l'image pour en arriver aux mots ?
Oui, je pense que j'ai été... ça fait tellement longtemps que j'écris avec Frédéric en tant que scénariste que c'est même inconscient. Je travaille sans doute comme ça. Et là, c'est mon premier roman, donc j'ai trouvé que c'était très différent comme écriture et c'était très intéressant. J'étais beaucoup plus dans l'émotionnel. Et puis voilà, c'est une épreuve solitaire. Mais évidemment, je pense qu'il y a toute la base en termes de structure, d'images, penser aux images que j'ai acquises avec Frédéric depuis toutes ces années.
Ouais, et vous diriez que la littérature, c'est le prolongement logique de l'écriture cinéma ou télé ?
Moi, je pense que ça dépend de chacun, mais en tout cas, là, ça m'est apparu comme ça. En effet, ça s'est imposé à un moment, et c'était logique, en effet, à ce moment-là.
Alors, moi, il y a un mot qui m'est tout de suite venu à l'esprit en vous lisant, et c'est pas du tout un jugement négatif, parce que ça peut être perçu comme ça par certains, mais je trouve que vous avez une écriture efficace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot inutile, de cette façon que chaque mot participe tout simplement à ouvrir la porte du lecteur pour lui donner des balises de compréhension. Vous êtes d'accord ?
Oui, en tout cas pour ce roman-là, je ne sais pas pour la suite, mais ce style est sorti comme ça et c'est vrai très efficace et assez brut, quoi, avec des phrases très courtes. Oui.
Voilà, et Frédéric Perrault avait fait un petit peu la même chose avec Pour une heure oubliée, que j'avais beaucoup aimé, et il sort un nouveau roman, son deuxième roman, dont on espère qu'il ne sera pas le second, la semaine prochaine chez Miel et Barreau. Ça s'appelle Cette nuit qui m'a donné le jour. Vous êtes concertés justement, parce que là, en même temps, à quelques semaines près, vous vous lancez tous les deux dans le bain de la littérature.
Oui, on s'est vraiment... on savait qu'on écrivait tous les deux un petit peu à côté depuis longtemps, mais ça s'est précipité comme ça. Moi, il a sorti son premier roman il y a un an, qui a eu le succès qu'on lui connaît et bien mérité. Et j'ai eu de la chance d'être édité un petit peu de temps après lui. Il en sort un deuxième. Je sais que ce ne sera pas le dernier parce qu'il est plus que proactif. Et en tout cas, voilà, nous, on veut continuer à écrire d'autres sujets et ensemble, parce que c'est vraiment un plaisir de travailler à deux. On rit beaucoup, on échange, on a toujours du recul. C'est vraiment différent et intéressant. Mais c'est vrai que on aime bien aussi l'écriture de livres chacun.
Oui. Et de livres noirs, et de livres à suspense où il y a toujours un mystère, quelque chose de singulier, non ?
Mais on en parlait, on ne veut pas s'enfermer ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, voilà, on lit les livres de chacun, les manuscrits.
Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et tant marcher, j'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc. Je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, dans la raison et sans amour. Passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence obstinée. J'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on n'oublie pas. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne
à toi, les voix de Marina Kaye et du chœur gospel de Paris dans VMDN sur RFI, extrait de l'album de reprise des chansons de Jean-Jacques Goldman intitulé L'héritage Goldman. Le premier volume est sorti vendredi dernier. On salue d'ailleurs au passage Julia, l'inséparable spitz allemand nain de Marina Kaye, un petit chien blanc comme Billy, le bichon maltais d'Hervé. Les cobons, les nouveaux voisins d'Hervé, eux, ont un Jack Russell qui s'appelle Vanille. Hervé, au passage, trouve le prénom ridicule. Nouvel extrait du livre, nous sommes cette fois à la page 134 de votre roman, Audrey Nachar.
En rentrant dans l'immeuble, fatigués de leur promenade, ils n'avaient pas prévu de croiser Laurent et son chien. Hervé n'a pas le temps ou le juste réflexe d'attraper Billy. Vanille se jette sur lui à toute vitesse. Il a traversé la cour en quelques enjambées, mâchoire ouverte, croc acéré. Il n'en a fait qu'une bouchée. Depuis le temps qu'il voulait le goûter, ce bichon. Billy ne se laisse pas faire, mort à son tour. Les bêtes hurlent, enragées, diaboliques. Leurs plaies ouvertes laissent le sang se répandre et se mélanger. Un même sang sombre s'écoule de leur corps velu. Un sang qui effraie Hervé, celui de ses blessures au genou et surtout de la foie, où il avait fait mal à sa sœur et qu'il lui avait ouvert l'arcade. Tout ce sang, une flaque, une mare, une rivière de sang vers la mort. La peur du sang depuis, la peur du sang, là, alors que Billy continue de hurler et de se débattre. Laurent et Hervé arrivent tous les deux en courant. Ils sont perdus, dépassés. Le retraité reste prostré devant cette scène cruelle. Mais soudain, Laurent donne un grand coup de pied pour les séparer. Un coup de pied qui fait voler Billy un peu plus loin. Glapissement déchirant. Hervé crie, s'élance vers Billy, le prend dans ses bras. Ses tempes cognent, son cœur fait des bonds. Laurent attache vite son chien, vérifie qu'il n'a rien. Il se redresse, demande à Hervé. Tout va bien ? Hervé voudrait le mordre aussi, lui arracher l'oreille, le voir pleurer. Il serre ses deux poings contre son buste, retient son élan justicier. Faut lui mettre une muselière à ton clébard. Laurent ne répond pas, mais son silence crie des injures. Hervé se retourne et traverse la cour en tremblant, son Billy bien à l'abri contre son torse. Il entre dans l'immeuble, monte l'escalier en courant, rejoint son appartement et claque la porte avec violence. Une fois adossé contre la porte, il se met à hurler. Son animal blessé, apeuré, le regarde sans comprendre. Hervé pose Billy, le reprend dans ses bras. Il le caresse frénétiquement, lui demande pardon, lui jure qu'il le vengera, qu'il va bien s'occuper de lui, le guérir, lui acheter des petits os et du jambon blanc. En voyant le sang de Billy sur ses doigts, Hervé reste hagard. il a le tournis. Il fait chaud. L'odeur métallique, obsédante, lui pique le nez. Si seulement Elisabeth était là. Il faut qu'il tienne le coup, qu'il sauve Billy. Il va se laver les mains, laisse couler l'eau du robinet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une trace d'hémoglobine. Billy pleure et rejoint son panier en boitant, la tête et la queue basse. Il se roule en boule pour oublier la peur. Il lèche ses plaies, en frissonnant. Le maître n'emmène pas plus large. Il essaie d'appeler Elisabeth qui ne répond pas. C'est vrai qu'elle accourt avec son Mathias. Le gamin est nul en anglais, mais il s'accroche. Hervé jette le téléphone, regarde par la fenêtre. Plus personne. Il se baisse, reprend le téléphone, cherche dans le carnet à spirale un numéro, celui du vétérinaire. Ça sonne. Les membres inférieurs d'Hervé se mettent à trembler compulsivement. Il se déplace jusqu'au frigidaire, attrape une bière, la décapsule avec les dents. Quand le liquide tapisse sa gorge, les tremblements se calment un peu.
Alors là, Audrey Najjar, si on n'est pas dans une scène de cinéma, je ne sais pas, c'est quand même extraordinaire. Là. On a toutes les images en tête, là, rien qu'en écoutant vos mots. Vous avez pensé à une adaptation cinéma du livre ?
J'y ai pas pensé, je pense volontairement. Je voulais vraiment que ce soit un livre. Mais par contre, évidemment, j'adorerais. Maintenant qu'il existe, Je trouverais ça formidable, forcément.
Bon, en tout cas, nos réalisateurs sont beaucoup amusés à mettre ces différents extraits en ondes. Et on a entendu, là aussi, avec l'accompagnement musical qu'ils ont choisi. C'est vrai que c'est le dernier extrait dans l'ordre chronologique du livre que nous avons choisi de mettre en ondes. Et il y a effectivement cette tension qui, petit à petit, monte, mais de façon presque imperceptible hein, à travers vos pages. Comment est-ce qu'on installe justement cette tension, ce suspense quand on écrit un roman comme celui-ci, Audrey Najjar ?
Mais c'est vrai que j'ai bien aimé cet extrait et la musique comme ça, c'était très bien choisi. J'ai bien structuré mon roman avant de l'écrire. Je trouvais ça important de savoir où j'allais. Après, ça ne m'a pas empêché de me laisser surprendre à plein de moments. Et je voulais donc, comme je le disais, une histoire très simple, un huis clos avec un personnage principal. Et donc la tension finalement monte de manière assez simple. Il suffit d'un petit peu de violence comme ça, d'un peu de jalousie. Et puis finalement, on va tout droit vers le drame avec quelques éléments.
Mais vous n'abusez pas justement des clichés qu'on peut rattacher par exemple aux séries. Par exemple, la technique du cliffhanger, vous n'en abusez pas du tout.
Oui, non, je...
Alors qu'on aurait pu s'attendre justement à travers votre parcours à ce genre
d'artifice.
Oui, c'est vrai.
C'est pas forcément mon fort, en tout cas. Voilà, j'étais plus intéressée par le côté psychologique du personnage et sa bascule que d'un cliffhanger en soi, juste pour faire tourner les pages.
Oui. Mais un page-turner d'ailleurs, en parlant de ces romans-là. Alors ce livre, il est dédié à tous les voisins. Et je vous cite à celui qui m'a inspiré malgré lui. Autrement dit, Hervé existe, Audrey Najjar ?
Alors, j'ai eu une petite source d'inspiration, mais bien différente d'Hervé, pour m'en éloigner très rapidement. Voilà. Et en fait, grâce à un voisin qui était un petit peu désagréable, mais on en a tous, je me suis juste dit, tiens, qu'est-ce que c'est d'être si méchant, en fait, finalement, ça a donné le début de cette phrase, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens malheureux. Et ça a provoqué une espèce de plongée à l'intérieur d'un personnage qui est devenu Hervé et auquel je me suis attachée et même dans lequel je me reconnais quelquefois.
Un mot de la liste des remerciements à la fin du livre, elle est assez longue et vous remercie en particulier Bernard Werber pour cette phrase. Le découragement fait partie du mode de sélection. Vous expliquez ?
Ah oui, je trouve cette phrase géniale. Franchement, elle m'a aidée. Elle était punaisée sur mon petit mur d'écriture, parce que déjà quand on travaille comme scénariste, réalisatrice dans ce métier-là depuis longtemps, on sait que les projets mettent du temps à se faire. Il y a plein de bonnes surprises sur le chemin, mais il faut vraiment avoir le cœur bien accroché, quoi. Et voilà, et en l'écoutant parler, de toute façon, j'écoute beaucoup d'auteurs pour voir un petit peu par quoi ils passent, et on voit que vraiment c'est un métier de résilience, quoi.
Oui, c'est un métier de résilience. Donc, votre première d'écriture, quand on est chez vous, on a l'impression d'être dans un commissariat, quoi. Ça ressemble à ça, non ?
Non. Mon mur d'écriture, là, je confonds avec un autre projet, mais c'est surtout ces références visuelles dont je parlais, et un petit peu de structure aussi, mais... C'était pas tellement de sang, de crime, pas du tout.
Bon, très bien, vous me rassurez. Ouais, merci beaucoup.
Merci
Audrey
Najjar,
Ordinaire, votre premier roman est paru, je le rappelle, aux éditions du Masque. Merci.
Merci.
Je commence à kiffer même ses défauts. Je veux pas m'impliquer dans des sales histoires. Et je me prends la tête, j'en fais trop. Juste pour esquiver toutes ces sales histoires. j'ai fait ta prochaine. Voilà, faut faire doucement. Faut pas que t'arrêtes de mentir pour que je te donne du temps. J'ai bien vu que je pouvais souffrir si je tombais dedans. On devait ralentir, mais ralentir pourquoi? Y'a que nous deux dans la porte, en face to face. C'est comme les jazz maintenant. Y'a que nous deux dans la porte, en face to face. C'est quoi les jazz maintenant?
Echo et la voix R&B de la chanteuse Ronisia, chanteuse de Grigny en région parisienne. Elle sera avec nous la semaine prochaine pour nous présenter son nouvel album. Alors elle est plus tennis que football, hein, mais elle a déjà ambiancé quelques matchs du PSG. Elle milite aussi pour la popularisation du sport féminin et ses origines capverdiennes lui donnent de bonnes raisons de vous écouter aujourd'hui. Marie-Amélie Motte, bonjour.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
En effet, le Cap-Vert affronte le Sénégal dans quelques minutes sur RFI pour une place en quart de finale de la CAN. Alors les requins bleus ont été touchés, on le sait, par une intoxication alimentaire. Est-ce qu'ils vont à présent dévorer les lions? Réponse à suivre avec vous.